Radio Foot International.
Éric Mamrut.
Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Foot International. International comme l'Inter Milan, en pleine tourmente après avoir subi deux défaites consécutives cette semaine, et ce pour la première fois de la saison. En Serie A et hier en Coupe d'Italie avec une sévère élimination en demi-finale face au Milan AC. L'incroyable triplé que les Nerazzurri convoitaient s'est donc envolé, à voir s'il ne pourrait pas finalement tout perdre. Le coup de la panne pour Arsenal, tenu en échec à domicile par Crystal Palace hier en championnat. Simple avertissement, vrai motif d'inquiétude pour les Gunners. À moins d'une semaine de recevoir le PSG en demi-finale aller de la Ligue des Champions, le débat sera lancé. La première ligue anglaise que va quitter Leicester à la fin de la saison. Les Foxes seront relégués pendant qu'un autre ancien champion d'Angleterre est lui assuré de retrouver l'élite. Il s'agit de Leeds United. Fortune diverse également pour deux Frances du championnat espagnol. Le madrilène Eduardo Camavinga, à nouveau blessé, sans doute out pour la fin de la saison. De son côté, Jules Koundé vient d'enchaîner 104 matchs d'affilée sous le maillot du Barça. Une série record. Nous analyserons les raisons de ces destins croisés. Ceci en compagnie de nos trois invités du jour. D'abord, un ancien footballeur, aujourd'hui entraîneur globetrotter. Il est allé au Maroc, au Japon, au Niger, en France. J'en passe à Leicester. D'ailleurs également, monsieur Jackie Bonnevay. Comment ça va? Bonjour.
Impeccable. Bonjour à tous.
Bienvenue. L'Angleterre, lui aussi, il connaît par cœur, ça. Il a peut-être la nationalité également, il va la recevoir.
Oui.
Mr. Salim Bongali, how are you?
Fine and you?
Great.
Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous.
Il a également son passeport constellé de visas multicolores, l'international Nabilou Djellit est avec nous.
Salut Eric, salut à tous.
Comment ça va?
Très très bien, mieux que les Foxes apparemment, mais...
Et que les
depuis que Riyad Mahrez est parti, quoi.
Et maintenant Jimmy Vardy, puisqu'on en parle.
Voilà, Jimmy Vardy qui a annoncé, en plus, qu'il quittait le... Son club de toujours, un Radio Foot très international, donc réalisé avec l'aide précieuse des polyglottes David Finzel et Maestro Salerno. Andiamo subito in Italia.
Dietro Perjovic! Il vantaggio del Milan al 36esimo minuto! Luka Jovic di testa, l'assist di Jimenez, un cioccolatino perfetto!
Le Milan l'a emporté 3-0 sur la pelouse de l'Inter après le 1 partout de l'aller. Le Milan est en finale de la Coupe d'Italie.
0-3 per il Milan! È un 3-0 pesantissimo!
Et 1, et 2, et 3-0, et un sacré chaos pour Milano. L'Inter giflé hier soir à San Siro par son rival, le Milan AC, dans un derby qui avait pour cadre la demi-finale retour de la Coupe d'Italie. Les Nerazzurri éliminés quelques jours après avoir été battus à Bologne en championnat. Deux défaites de suite pour l'Inter, c'est une première cette saison pour le club milanais. Cosa succede? Que se passe-t-il pour l'équipe de Simone Inzaghi? La fatigue? Eh bien, certainement, répond l'entraîneur de l'Inter.
Clairement, il y a de la fatigue physique et mentale, mais nous devons être plus forts que cela.
La fatigue ne doit pas être un alibi, ni le calendrier. Nous sommes là pour jouer les matchs avec une grande implication. Nous n'en avons pas eu contre le Milan AC. Bien sûr qu'on a eu un calendrier plus chargé que les autres, mais ça ne doit pas être une excuse. Il faut aller de l'avant, enchaîner les matchs. Dommage pour celui-ci, car nous voulions aller en finale. Il nous a manqué quelque chose, et comme souvent pour aller en finale, il faut pouvoir en faire plus.
Alors les héros fatigués après leur brillante qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, c'était face au Bayern Munich. Fatigués à quel point? Eh bien on va se tourner pour le savoir vers notre correspondant à Milan, Matteo Cioffi. Buongiorno.
Bonjour, bonsoir Eric, et bonsoir à tous.
Alors Matteo, est-ce que vraiment l'Inter a été méconnaissable cette semaine, d'abord face à Bologne et hier face au Milan AC?
Ben, ça a été vraiment une soirée assez compliquée pour les Nerazzurri. Hier soir, j'étais à San Siro et je peux vous assurer qu'à la fin du match, les visages des tifosi de l'Inter étaient visiblement soucieux. La peur commence à faire surface après avoir savouré l'idée que leur équipe pouvait miser un nouveau triplé, un peu comme en 2010. Bon, qu'est-ce qui s'est passé chez les Nerazzurri? Vous l'avez entendu, l'entraîneur interiste n'a pas voulu parler de fatigue et il a préféré ensuite se pencher vers l'importance de retrouver au plus tôt quelques éléments clés de l'équipe qui sont
absents hier.
Il y en avait deux surtout. C'est le même Inzaghi qui les a évoqués. D'un côté, l'ailier droit néerlandais Denzel Dumfries, mais surtout Marcus Thuram. On l'a de nouveau remarqué hier dans le match, dans le derby. Lorsque l'attaquant français est absent, son partenaire privilégié, Lautaro Martinez, risque de s'égarer car ni l'Argentin Correa, ni l'Iranien Taremi assurent la même qualité. Et donc, le technicien devra maintenant être très vigilant. Gérer bien les forces de son équipe pour éviter un risque de surmenage physique. Mais son rôle, c'est aussi celui de redonner confiance à un groupe déprimé par la défaite d'hier. Et c'est là car un derby ne peut pas compromettre une saison entière. Se faire éliminer en Coupe d'Italie fait mal, mais ce n'est pas fatal. La Ligue des Champions permet de rêver, mais aussi de reconnaître une éventuelle exclusion, car l'adversaire de premier rang, il s'appelle Barcelone. Mais ce qui serait inacceptable, c'est de laisser filer un scudetto qu'on croyait il y a seulement quelques jours, déjà dans la poche des interistes.
On va parler des objectifs, des autres objectifs, hein, le calcio et la Ligue des Champions. Mais déjà, Jackie Bonnevet, cet enchaînement des matchs, peut-être là, cette décompression post-Ligue des Champions, ça peut expliquer cette brutale chute de tension de l'Inter cette semaine ?
La difficulté, même pour les grandes équipes, c'est d'être performant sans discontinuer. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'ils nous ont montré tout au long de la saison une défense de fer et que cette semaine, ils ont été perméables au-delà. Donc, est-ce que c'est une fatigue ? Je pense qu'il y a aussi une fatigue mentale, une fatigue physique, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on n'était pas habitué à ça. Alors, c'est vrai que la difficulté dans ces grands clubs qui ont des fins de saison captivantes, c'est d'essayer d'enchaîner pour gagner le plus de compétitions possible. Et là, déjà, la Coupe d'Italie, c'est fini. Après, ils ont un match ô combien important en Champions League. Et puis, c'est vrai qu'il y a le Scudetto. Donc, il y a énormément de choses. C'est pour ça que le management, le turnover, l'effectif est déterminant dans ce type de club, de grands clubs, parce qu'ils ont besoin de forces vives et surtout à cette période de la saison.
Nabil, la question, c'est de savoir si c'est une mauvaise passe ponctuelle ou si vraiment, ça y est, ils sont cuits et ils vont finir la saison sur les rotules, quoi.
Bah déjà, ils ont une compétition à moins en jouer parce qu'ils étaient sur trois tableaux. En Italie, on les attendait sur le triplé, donc ça met quand même la barre assez haute. Hein. C'est pas l'époque de Sergei Bubka, mais presque, quoi. On vous demande de battre...
Il l'avait fait en 2010. Hein,
voilà, on vous demande de battre le record de José Mourinho. Alors oui, on peut expliquer ça par le fait qu'effectivement, il puisse y avoir un essoufflement et puis des matchs où vous êtes l'équipe à battre, parce que cette saison, par exemple, le Milan AC, globalement, ils font une saison très moyenne, très médiocre.
C'est gentil. Hein,
et sur les 5 matchs qu'ils jouent contre l'Inter Milan, qui est la meilleure équipe d'Italie, concrètement, dans le jeu, et sur la scène européenne, puisqu'ils sont demi-finalistes de la Ligue des Champions, ils font 2 victoires et 3 nuls. Donc vous avez des équipes qui vous attendent au virage, qui sont là, parce que les mecs du Milan AC, ils sont passés à côté je sais pas combien de fois, mais à chaque fois qu'ils jouent l'Inter, ils mettent la surmultipliée, quoi. Enfin, ils essayent de sauver leur saison. Mmh. Et c'est ce qui s'est un petit peu encore une fois passé hier, parce que sur le contenu, au final, le Milan AC n'a absolument pas surclassé l'Inter. L'Inter était quand même meilleur. Ils ont juste été abasourdis par l'efficacité du Milan AC. Maintenant, il reste 2 compétitions, la Ligue des Champions. Et c'est vrai que ce qui les met un peu dans la sauce, c'est que ce titre-là, la Serie A, on pensait que c'était gagné. Donc, on pouvait se dire, pas se relâcher, mais au moins un peu gérer, peut-être faire tourner. Et là, t'es obligé, t'es sur le sprint final également en Serie A. Donc voilà. Mais bon, après, c'est l'eau des grandes équipes. Et puis l'Inter de Milan, aujourd'hui, c'est une grande équipe. Donc voilà. Et une grande équipe, parfois, ça peut rater un pote à 2 mètres dans le golf, quoi.
Ouais, mais quand vous dites que c'est une grande équipe, je suis bizarrement pas totalement d'accord, c'est rare que je sois pas d'accord avec vous Nabil, mais Matteo le disait, il y a 2 joueurs qui ne sont pas là actuellement, Dumfries et Marcus Thuram, et on dit que 2 joueurs sont pas là. Alors, oui, ce sont 2 très 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 bons joueurs, la question se pose même pas, mais dès que simplement 2 joueurs sont pas là, tout d'un coup l'Inter s'écroule.
Il y a Sommer aussi qui était sur le banc.
Mais en championnat déjà on l'avait vu en début de semaine avec la défaite face à Bologne, certes dans les dernières secondes, mais quand même. Et puis donc on l'a vu là en coupe, dès qu'il y a 1 ou 2 cadres simplement qui sont pas là, l'Inter s'effondre. Et c'est ça qui au final presque me fait m'effraie, parce que Mehdi Taremi, c'est son cousin lointain, hein, qui est désormais dans le 11 et quand il évolue à l'Inter, puisqu'il est loin de celui qui existait à Porto. Puis Lautaro Martinez redevient un joueur normal quand il n'a plus Marcus Thuram à ses côtés. C'est ça qui est assez effrayant au final.
Bon, moi je suis pas, alors bizarrement, j'entends, hein, je peux peut-être me tromper, mais je pense que c'est quand même une équipe qui va valider au moins un titre sur les deux qui lui reste à jouer. Parce que c'est quand même une équipe qui a des certitudes, globalement, qui a des joueurs qui vont revenir. Vous parliez de Thuram, mais Dumfries à droite, parce qu'on parle beaucoup de Achraf Hakimi, hein, dénommé au prix Marc Vivenfoe, qui fait une saison exceptionnelle avec le Real. Mais quand on regarde les datas et tout, il y a un joueur en Europe qui le match réellement, c'est Dumfries, quoi. Qui n'a pas exactement la même cote à l'international, mais qui est un super joueur.
Et juste quand vous évoquez les objectifs, vous allez en parler, Eric. Ouais. Je rappelle qu'avec le décès du pape, notamment,
oui,
le fameux Inter
du calendrier.
Roma bouge et ça réduit le nombre de jours, notamment de repos par rapport au Barça. Ouais. Et ça peut compter. Et
attention à la Roma, parce que c'est vrai que la Roma, c'est avec Ranieri.
Ah, c'est plus la même Roma.
C'est assez fantastique. Hein.
Jackie, ce genre de triplé pour un club, quel qu'il soit, c'est surement, quoi. C'est quasiment impossible.
C'est déjà des objectifs, c'est un rêve, c'est compliqué d'aller au bout parce qu'après, ça se joue à pas grand-chose. Alors, c'est vrai qu'on dit l'Inter, il en manque deux joueurs, mais c'est deux joueurs offensifs. Et quel joueur ?
Il faut
c'est
avoir
ça aussi.
Un effectif pléthorique pour pouvoir prétendre à
un. Oui, et puis maintenant, on se rend compte, même, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain qui n'a pas de blessé à cette période de l'année, alors que ça, c'est quand même unique dans l'histoire du PSG. Quand on arrivait en février, mars, avril, il y avait toujours des problèmes de blessures. Ça veut dire que maintenant, il y a une gestion, il y a des staffs techniques, il y a des staffs médicaux qui sont justement là pour la prévention et que les joueurs puissent être performants. On en parlera tout à l'heure avec Koundé, mais c'est important, la gestion justement des entraînements. Là, tout est très, très préparé maintenant et chaque joueur est toujours avec un GPS pour étudier, pour anticiper d'éventuelles blessures. Et on est dans un monde où il faut s'adapter aux nouvelles technologies qui permettent justement de gagner du temps dans la récupération et surtout d'avoir moins de blessés. Et on le voit. Alors c'est vrai qu'actuellement, concernant l'Inter dont on parlait, ils ont déjà un objectif en moins. Il en reste deux. Je pense qu'il est important pour eux d'en avoir un en fin de saison. Hein.
Oui, voilà.
Matteo Cioffi. Bah, dimanche, maintenant, il y a le championnat, la Serie A qui revient avant la Ligue des Champions mercredi à Barcelone. Gros match contre l'AS Rome, ce sera à domicile, mais là, déjà, il faut se remettre la tête à l'endroit.
Ouais, tout à fait, il faut serrer les coudes et recommencer à courir parce que si il y a pas de distraction qui est permise en ce moment, le Napoli est là et on
doute,
sent bien
que
la...
le doute s'est installé véritablement dans la maison noire et bleue.
Moi, je répète, moi, j'étais bien assis dans ma tribune hier, je regardais les interistes, c'était l'angoisse. Regardez le tableau, il y avait écrit 0-3. Il venait de vivre un week-end d'horreur avec cette défaite à la dernière seconde face à Bologne. Donc, il commence vraiment à craindre les pires. Mais à la fin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est toujours la faute à José Mourinho. C'est lui qui a mis dans la tête des interistes le triplé. C'est sa faute et c'est devenu une obsession à partir de ce moment-là pour les tifosi de l'Inter. Donc, il faut vraiment maintenant rester très, très concentré. Parce que vous l'avez dit, dimanche, il y a la Roma qui est en lutte pour une place dans la prochaine Ligue des Champions. Après trois jours, ce sera le big match face à Barcelone. On ne peut pas se distraire car Antonio Conte est là, il regarde. Il sait très bien où peut arriver son équipe et il a compris que son équipe, le Napoli, peut remporter ce Scudetto. Donc on le sent arriver, il est là.
Ouais, là, les deux équipes, l'Inter et Naples, sont égalité, hein, 5 journées de la fin du calcio.
Vous avez de la chance, Matteo, parce que vous avez un championnat avec un final, un sprint entre des belles équipes. Nous, en France, on aimerait bien que ça nous arrive, quoi. Je vous le dis honnêtement.
Ouais, vous avez le championnat du monde.
Le quoi, quel championnat?
Vous, les Français, vous avez les championnats du monde. Nous, on a seulement le championnat national.
Ah ouais, mais le championnat, c'est tous les week-ends et ça dure plus longtemps. Que le championnat du monde, c'est un événement. Et c'est pas tout le temps. Quoi. Mais
après, il faut attendre 4 ans. Donc, ça fait déjà 8 ans que j'attends.
voilà. Enfin, vous avez quand même gagné l'euro entre-temps, ce qui n'a pas
on aura le temps d'en
à
parler.
À tous les pays européens.
Pour en venir à ce rêve de triplé qui s'est donc évanoui, mais est-ce que là, l'Inter ne pourrait pas finalement tout perdre
Évidemment, évidemment qu'ils peuvent tout perdre. On est dans le money time. De toute façon, il y a une seule équipe qui gagne chacune des compétitions. Et puis, il faut recontextualiser un minimum. En début de saison, si on vous avait dit que vous étiez en lice pour faire un triplé, je pense que les interistes, ils auraient signé dès demain, quoi. Déjà, bon, leur objectif numéro un, il est domicile. C'est celui de dominer la scène nationale et de prendre le relais, finalement, quelque part dans l'imaginaire de la Juve, parce qu'il y a eu un intermède un peu avec le Milan, mais finalement, la meilleure équipe d'Italie, maintenant depuis un moment, en moyenne pondérée, c'est quand même l'Inter. C'est l'Inter aussi qui est arrivé en finale de la Ligue des Champions contre Manchester City il y a deux saisons. On a l'impression que c'est presque encore une surprise dans l'esprit de certains de les voir là. Mais pas du tout. C'est une vraie bonne équipe, avec des joueurs à maturité, une équipe bien pensée, avec un système de jeu, et des joueurs qui performent, et des joueurs qui pourraient presque être au niveau Ballon d'Or. Parce que Lautaro Martinez, c'est peut-être pas dans l'esprit de beaucoup Mbappé, Yamal ou Vinicius, mais aujourd'hui c'est un des meilleurs joueurs au monde. Clairement,
pour ceux qui suivent le foot sondage, niveau football italien, c'est quelque chose.
Faites un sondage et puis
c'est pas le premier nom qui arrive.
Il va pas arriver en premier, il va arriver. Sauf pour ceux qui vont être un peu plus spécialisés, un peu plus experts. Donc en fait, c'est une équipe qui répond. Pour moi, cette équipe-là, elle coche toutes les cases. Seule faiblesse que je lui note pour l'instant, mais on verra, c'est effectivement la complémentarité Thuram, Lautaro Martinez, elle n'est pas compensée par Taremi ou Correa ou Arnautovic, le Zlatan autrichien. Moi, personnellement, je préfère Arnautovic parce que je lui trouve du génie.
Mais il commence à vieillir.
Mais c'est le seul truc pour l'instant où on se dit, tiens, ça n'a pas été compensé suffisamment par l'absence de Thuram. Mais bon, vous allez voir, il va y avoir un match contre le Barça, hein, de toute façon. Parce que le Barça, ça ne défend pas très bien non plus, hein.
Ouais, mais là, il y a un enchaînement qui paraît affolant.
Ah oui,
donc là, le match de dimanche, après mercredi, le match à Barcelone. Matteo, le calendrier donc, a été encore plus rendu compliqué par le décès du pape. Là, il y a un enchaînement pour l'Inter assez affolant.
Oui, on jouera pas le samedi, on jouera tous les matchs du samedi ont été reportés à dimanche. C'est vrai que si on regarde le calendrier, il semblerait plus favorable au Napoli qui ne devrait affronter aucune équipe du haut du tableau. Le Napoli jouera 3 matchs à domicile, à priorité à sa portée, face à Torino, Genoa et Cagliari, et 2 à l'extérieur face à Parme et Lecce, qui c'est vrai lutte pour ne pas être relégué. L'Inter de sa part à son tour, 3 rencontres à disputer à San Siro qui pourraient se révéler insidieuses, surtout face aux 2 clubs romains, on l'a dit avec la Roma, mais après il y aura la Lazio, et même la Lazio, vous le savez très bien, est là qui souhaite rentrer dans les 4 pour participer à la prochaine Ligue des Champions.
Et Matteo, ça pourrait pas jouer sur... on sait que quand les deux équipes sont à égalité en fin de saison en Italie, le goal average, il compte pour du beurre, et il y a une finale. Est-ce que ça pourrait pas jouer sur une finale Inter-Naples?
Oui, absolument. Depuis le nouveau règlement qui a été introduit dans la saison 2022-2023, ce ne sera ni les confrontations directes, ni la différence de but qui désignera le vainqueur du Scudetto. On prévoit donc un match d'appui qui se disputera sur un terrain neutre, probablement ce sera à Rome. 80 minutes, pas de prolongation, et en cas de match nul, on ira directement au tir au but.
Là, dimanche, face à la Roma, ça sera pour l'Inter son 8e match au mois d'avril. Est-ce qu'on peut se remettre d'un tel enchaînement de parties, alors que 3 jours plus tard, il y en a un deuxième incroyable.
C'est ça, il y a un enchaînement physique, vous l'avez dit avec vos chiffres, et j'ai envie de dire un enchaînement mental, typiquement de ces joueurs. Réussir à se remettre dans le bain tous les 3 jours pour des objectifs en plus différents. La Roma, et ça a été suffisamment évoqué, puis 3 jours après, une autre compète, alors que 3 jours avant, vous avez été éliminé par votre ennemi absolu, dans une autre compète aussi. C'est là où va falloir trouver les bons mots et que Simone Inzaghi trouve justement les bons mots.
Il y a une gestion mentale en plus, au-delà de physique, de se remettre, parce que prendre 3-0 aussi à domicile, ça ne doit pas faire du bien. Matteo, on va quand même parler du Milan AC, puisque si l'Inter pleure en ce moment, le Milan AC a respiré un bon coup hier grâce à cette victoire, confirmant donc cette série... face à son rival, donc 5e match consécutif sans défaite face à l'Inter. C'est une victoire qui arrive à point nommé pour le Milan AC qui, on l'évoquait, vit une saison bien compliquée.
Ben oui, en plus c'est la victoire de regret comme confessé par Sergio Conceição à la fin du match. Pour le technicien, si son équipe avait joué plusieurs matchs comme celui de hier soir, le classement serait très différent pour les rossoneri. Mon équipe n'a pas toujours été humble, il a ajouté le Portugais, qui au-delà de tout se retrouve déjà avec un trophée remporté, la Supercoupe d'Italie, et peut-être un deuxième en cas de victoire finale de la Coupe d'Italie. Étrange parcours le sien, comme celui de son équipe dont cette année on a eu du mal à comprendre sa réelle valeur. Le vrai Milan est celui capable de gagner 3 derbies sur 5, s'imposer au Bernabeu contre le Real de Madrid, ou c'est l'équipe qui boite en championnat et qui provoque la rage de ses supporters. Et c'est la question qu'on se pose. La réalité, c'est que Milan est sorti trop tôt de la Ligue des Champions et navigue actuellement à la 9e place au classement avec 51 points en 33 rencontres, qui veut dire jamais aussi mal depuis 10 ans, lorsque les points à ce même moment du championnat étaient 43 et sur le banc, il y avait un autre Inzaghi, Pippo, le frère de Simone.
Jackie, vous comprenez la saison du Milan AC, justement
Elle est surprenante, mais ça va être peut-être les champions de la Coupe, parce qu'ils gagnent la Super Coupe d'Italie, et ils peuvent gagner la Coupe, donc ça sera une année de Coupe. C'est vrai que dès l'instant où ils sont éliminés très tôt en Champions League, et qu'ils sont, où ils n'ont plus rien à jouer pratiquement en championnat, je pense qu'ils basent toute leur force sur la Coupe pour entre guillemets, sauver les meubles. Et c'est quelque part aussi... dans le palmarès, 2 coupes dans la même année, ça peut bien le faire pour le Milan AC.
Mais voilà. Surtout que ça leur offrait un ticket européen, puisque
ils sont même pas là typiquement.
Pour l'instant, oui, non. Et a priori, ils décrocheront pas le ticket européen via le championnat. Là, ça leur offrirait, en cas de succès, sans doute en finale face à Bologne, qui est bien parti pour se qualifier, ça leur offrirait un ticket pour la Ligue Europa. Un regard, Nabil, sur ce Milan AC déconcertant.
C'est décevant, quoi, parce qu'en fait. Quand vous faites une mauvaise saison, normalement, vous êtes 4e ou 5e quand vous êtes le Milan AC, quoi. Et en fait, c'est une équipe qu'on voyait un peu s'inscrire de nouveau dans le paysage européen. Ils étaient demi-finalistes de la Ligue des Champions l'année où l'Inter va en finale. Si vous vous souvenez, il y avait Naples, l'Inter et tout. Et on a aussi une baisse de pas mal de joueurs individuellement, je trouve. Il y en a qui sont partis comme Bennacer du côté de Marseille. Comment il s'appelle ? Le gardien Maignan, c'est moins bien... cette saison, donc on a l'impression que il va falloir faire de nouveau un reset et un nouveau départ. Mais au final, quand vous réfléchissez un peu, ce genre d'équipe, qu'est-ce qui avait fait leur force dans le passé, la Juve et le Milan AC? C'était des ossatures de joueurs italiens. C'était donné quelque part une stabilité. Aujourd'hui, c'est plus des ossatures de joueurs italiens. Donc finalement, ils sont au gré du vent. Et c'est un peu comme les sables mouvants. On n'a pas le sentiment d'avoir un socle solide, parce que quand on vous dit le Milan AC, honnêtement, à quel joueur vous pensez? Moi, quand j'étais gamin, quand on était machin, on sortait des grands joueurs italiens dans tous les sens. Même après, quand tu avais des étrangers, c'était des phénomènes.
Bien sûr.
Mais là, concrètement, franchement, quel joueur vous retenez du Milan AC?
Exactement. Le truc, c'est que demain, vous êtes un grand club, un Real, Barça, Bayern, Liverpool, PSG, que sais-je. Est-ce que vous prenez un joueur vraiment dans les 11 d'hier ou même sur le banc? Non. Même Rafael Leao, il est tellement intermittent que vous dites « Non, j'ose pas le récupérer ». Et puis d'autres joueurs, Pulisic, c'est un constant, Gabia en défense, Pavlovic, etc. Bref, cette équipe de l'AC Milan... Elle réussit à être en finale.
Avant, les grands joueurs, ils étaient au Milan.
Non, mais il y a un problème d'identité. Il y a un problème d'identité.
Ah, clairement.
Bon, on va voir si le Milan AC va réussir une bonne fin de saison sur la lancée. Donc, sa belle victoire hier contre l'Inter. Grazie mille, Matteo Cioffi. À très bientôt.
À très bientôt. Merci et bonne soirée.
Merci. On va quitter l'Italie pour partir en Angleterre avec une petite transition en reggae. avec Clinton Freeran, le Jamaïcain. Remember
sleepwalking into the dark without a light. Are we sleepwalking as if it's always night? Are we sleepwalking? Wake up and hear something again. Wake up and feel something again. Wake up and do something, my friend. Wake up and live. This is not the end.
Clinton Ferron, Sleepwalking. Nous, on va se réveiller et puis on va aller en Angleterre.
Oui, c'est la grande répétition pour Arsenal. 34e journée de Premier League. Les Gunners reçoivent à l'Emirate Crystal Palace 6 jours avant d'affronter le Paris Saint-Germain.
The Gunners come flying out the blocks. That's the lead by Golden Hill.
3 minutes de jeu à peine. Et déjà les Gunners sont devant au tableau d'affichage 1-0.
He's in towards Beretta.
Aisé à l'entrée de la surface. Quelle inspiration géniale.
Oh, it's a stunning goal.
Dangereusement perdu Mateta.
A massive lapse in concentration at the back by Arsenal.
Bonne opération pour Crystal Palace, mais l'essentiel était ailleurs ce soir pour Mikel Arteta et ses joueurs, on l'a bien compris.
Comme le Paris Saint-Germain la veille à Nantes, Arsenal a fait match nul hier à une semaine de leur duel en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Les Gunners s'accrochaient donc à domicile par Crystal Palace de partout après avoir mené au score à 2 reprises. Un match, un résultat qui n'a pas plu à leur entraîneur Mikel Arteta.
Je suis déçu évidemment à la fois par le résultat et par notre performance. Nous n'avons pas dominé, nous n'avons pas su imposer notre rythme comme on sait normalement le faire. Parce qu'on a été en dessous de nos standards dans trop de secteurs clés. Et pourtant, même quand vous n'êtes pas à votre meilleur niveau, quand vous menez 2 fois au score, vous devez être capable de tuer le match. Aujourd'hui, nous n'avons pas su le faire. Maintenant, nous avons 6 jours pour préparer cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Bien sûr, je ne veux pas que ce soit une excuse. C'est vrai, on a dû aligner aujourd'hui beaucoup de joueurs qui ne s'étaient pas vraiment beaucoup entraînés. Ça s'est clairement ressenti. On a manqué de fraîcheur. On était court. En réalité, aujourd'hui, nous n'étions pas à notre meilleur niveau.
Salim, vrai mauvais match où les Gunners avaient la tête déjà la semaine prochaine?
Non, c'est vrai que le match n'a pas été exceptionnel de la part d'Arsenal. Mikel Arteta l'a dit, le fait de se faire remonter 2 fois, le fait de concéder autant d'opportunités, surtout dans la partie, parce que Palace, on a eu beaucoup. Après, et c'est là où moi, je ne suis pas forcément inquiet, c'est que Arsenal, et c'est pour ça qu'il y a cet écart aujourd'hui entre Liverpool et les Gunners, l'a souvent fait cette saison. Contre Brentford, il y avait eu un match nul partout. Même, vous imaginez, même contre United, ils n'ont pas battu United. C'est dire, alors que United, on connaît le niveau des Red Devils cette
saison. Ils n'ont pas battu United.
C'est vrai, vous avez raison. Ça, c'est un autre débat encore. Bref, Arsenal a réalisé plusieurs très mauvais résultats cette saison. Et au final, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Et ce, assez sereinement. Donc, très sincèrement, je ne suis pas forcément inquiet. Hier, il a évoqué effectivement les blessés qui n'étaient pas là. Je rappelle, et ça peut être un élément clé, là où le PSG va jouer ce week-end. Arsenal a vu, je sens, ce match être avancé pour cause de cup, en fait, puisque Palace joue la cup, et donc le match était avancé. Donc Arsenal a 6 vrais jours de repos, 6 vrais jours de prépa avant le PSG, et ça peut réellement compter.
Les blessés, les absents... Ouais.
Parce que les blessés, ils en avaient aussi lors du dernier match. Hein. Le quart de finale, ils en avaient beaucoup. Et au final, ils se sont imposés à Madrid. Avec ces blessés, ils ont éliminé à aller-retour Madrid. Avec ces blessés quand même.
Eux, ils ne sont pas dans la posture de jouer le championnat, en fait, puisque de toute façon, ils ont perdu. C'est la différence avec le Paris Saint-Germain ou même l'Inter Milan, qui est lancé dans un sprint final. Les paramètres ne sont pas les mêmes, donc c'est difficile de se prononcer. Est-ce qu'ils ne vont pas tout mettre... Enfin, si, ils vont tout mettre sur la Ligue des Champions, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu une compétition qui est accessible hein, pour Arsenal. Parce que si on arrive en début de saison, on dit « Qui vous voyez gagner la Ligue des Champions ?» Personne donne Arsenal. Hein. Honnêtement, même si c'est un club avec des moyens, dans un très grand championnat, mais ce n'est pas du tout le nom qui sort du chapeau. Quoi.
Mais je rappelle, Arsenal a fini 3e de la phase de Ligue, là où le PSG a fini 15e. C'est aussi un parcours non négligeable.
Jacques, c'est fou de voir comment la Ligue des Champions, ça occupe les esprits
c'est
des
clubs. C'est l'objectif suprême des équipes. Voilà. Alors, Arsenal, sous l'égide Arteta, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'ils font des saisons extraordinaires, ils ont quand même un peu de mal à finir les saisons. Ils ont du mal à conclure, ils ont du mal dans le money time. Et là, le match d'hier, on a pu voir aussi quelques petites inquiétudes peut-être, parce qu'ils se sont fait remonter deux fois au score. On a vu une deuxième erreur en peu de temps de William Saliba, que je connais bien. Parce que je l'ai eu à Saint-Etienne pendant une année.
Qui était le meilleur, Saliba ou Fofana?
C'est pas... C'est-à-dire que c'est des qualités complètement différentes. Fofana, il est exceptionnel, mais il est souvent blessé. Il a des qualités de vitesse extraordinaires. Saliba est quelqu'un de plus posé, un peu trop parfois. On a pu le voir ces deux dernières fois où il fait des erreurs. Alors, quand on fait une erreur et quand on gagne largement, ça se voit pas trop. Mais quand ça ne permet pas à son équipe de gagner, c'est quand même un sérieux problème. En plus, ça a été quelque part un peu, j'allais dire, un peu de nonchalance, voire de suffisance. Et ça peut être pour le Paris Saint-Germain quelque chose à prendre en compte et en considération, il me semble.
Ça, il peut douter maintenant, peut-être, Saliba, parce que ça fait deux de suite, hein, le match face au Real Madrid.
Je le vois en 1-1 contre Mbappé, parce qu'il le connaissait, il l'a quand même bien pris. Ouais. Bon, ça te donne aussi de la confiance en toi et en tes qualités. Donc, il peut sur un malentendu ou une approximation être concerné par un but, mais honnêtement il fragilise pas l'édifice, quoi.
Et vous voyez les deux erreurs dont on parle, une erreur contre le Real qui au final n'a eu aucune incidence, et hier, alors vous allez me dire, contre Palace il y a eu match nul au lieu de s'imposer, mais au final dans un match, alors je vais pas dire qu'il compte pour du beurre, c'est pas le cas, mais vu l'écart qui existe aujourd'hui avec Liverpool et vu l'écart qui existe quand même avec le 3ème, 4ème, etc., on dit que Arsenal, entre guillemets, peut presque griller un joker. C'est pas très grave. Arsenal va normalement finir deuxième. Trois fois deuxième de suite, d'ailleurs, hein, pour les Gunners. Donc, c'est pas gravissime. Et Saliba, on a déjà fait des erreurs par le passé. Et au final, il est toujours très bien revenu. Je vous assure, Saliba, c'est pas un joueur sur lequel on s'inquiète beaucoup. Et juste précision, parce que ce sera l'une des thématiques qui sera sans doute abordée la semaine prochaine. Mais dans la tête des fans d'Arsenal, vraiment, la Ligue des Champions les obsède à un point.
Ah oui, c'est intéressant.
Vraiment, les obsède parce que...
Ils n'ont jamais gagné, de toute façon.
Exactement, ils n'ont jamais gagné. Et vous l'avez très bien dit, Nabil, c'est vrai que cette formule donne l'impression qu'on peut la gagner. Mais ils sont dans le dernier carré, il n'y en a plus que 4 des équipes. Donc, ils se disent, mais bon sang, c'est vraiment notre chance. On a sorti le Real, on a fait ci, on a fait ça, oui. On peut le faire. Par le passé, des grands noms, Thierry Henry l'a pas fait avec Arsenal. Là, typiquement, ils se disent, mais c'est notre année, en fait. City n'est plus là, Liverpool n'est plus là, le Real n'est plus là, c'est notre année.
Saliba, donc, c'est une petite approximation dont profite Jean-Philippe Mateta. Vous avez vu le but, Jackie, pas mal, non, de la part
Mateta, extraordinaire du franco-congolais. Dans la gestion rapide de la situation, il a tout scanné en très peu de temps. Ça. Alors, si on regarde bien l'image, pour ça que je voulais la revoir, on se dit, mais il était où le gardien? Le gardien, il était disponible pour Saliba.
Exactement.
Et il a voulu anticiper parce qu'il n'a pas pu imaginer une telle erreur de sa part. Et à partir de là, Mateta, immédiatement, il a mis un piqué avec un dosage de la passe, de la frappe qui était extraordinaire.
Il est au moins à 25 mètres, effectivement, ça se loge sous la barre transversale.
Mais quand je profite de la présence de Salim, qui connaît bien Arsenal. Alors, leur point fort, c'est les coups de pied arrêtés, on est bien d'accord.
Ah quoi. Oui, et pas qu'un but, sur tous les coups de pied arrêtés, ils ont marqué plus de 20 buts cette saison.
Et là, face, PSG, c'est pas une équipe si athlétique que ça, on est d'accord, hein. Oui. Derrière. Hein.
Alors en parlant des coups de pied arrêtés, moi j'ai bien regardé, le premier est remarquable, le but de la tête, c'est vraiment construit avec leur spécialiste des coups de pied arrêtés, Nicolas Jauvert, et eux, d'une manière surprenante, ils ont pris aussi un but sur coup de pied arrêté.
Absolument.
Ouais. Bon, on verra.
Arsenal, toujours dauphin donc de Liverpool, qui peut être sacré dimanche. Hein.
Un match nul, ils sont champions.
Face à Tottenham, en bas de tableau, on connaît déjà deux relégués, Southampton et Leicester.
Désolé, Jackie.
Le champion d'Angleterre 2016, vainqueur de la Cup en 2021. Depuis, Salim, le club a vraiment perdu de sa superbe.
Oui, c'est sûr que Leicester ne pouvait pas rester le Leicester de l'époque qui a eu une réussite folle. Je vous le dis avec beaucoup d'émotion parce que je me souviens, cette saison-là, j'ai eu la chance de quasiment vivre tous les matchs à domicile de Leicester la saison où ils sont champions. C'était assez incroyable, vraiment cette émotion dégagée avec Jamie Vardy qui était un surhomme et tant d'autres, Riyad Mahrez, N'Golo Kanté et bien d'autres d'ailleurs. Et c'est vrai que de voir cette chute-là, c'est assez émouvant parce que la saison dernière, ils ont plongé en Championship, on s'est dit « Ah, cette équipe va avoir du mal à remonter ». Ils ont réussi à remonter directement, on s'est dit « Waouh !» avec un Jamie Vardy qui reste en leader, qui n'est plus le Jamie Vardy de l'époque, mais quand même, ils ont réussi à recruter un petit peu quand même, à garder quelques joueurs. Mais
ils n'ont pas réussi à garder le coach.
Absolument, ça vous avez pleinement raison. Et puis surtout, C'est là où on voit le gap qui existe et qui est phénoménal entre le Championship et la Première Ligue. Parce que Ipswich, qui est le troisième relégable, devrait être relégué officiellement ce week-end, puisqu'ils ont 15 points de retard sur le 17e et il reste 5 journées. 15 points, en fait, ça va jouer. Il faudrait qu'ils gagnent les 5 et que le 17e, West Ham, perde les 5, ce ne sera pas le cas. Après, ils devraient être relégués. Et c'est pour la deuxième saison de suite que les 3 promus sont également relégués la saison suivante. C'est vous dire le gap qui existe entre le Championship et la Première Ligue. Leicester a essayé avec beaucoup des anciens joueurs, mais l'écart était beaucoup trop grand.
Jackie Bonnevet, vous avez été entraîneur adjoint de Claude Puel à Leicester, justement, saison 2018-2019.
Exactement.
C'est bien ça. Vous comprenez les difficultés de Leicester?
C'était le meilleur moment au niveau de la qualité des joueurs et des performances. Quand on est parti, le club, faut pas l'oublier, a été pratiquement tout le temps dans les 4-5 premiers, même si en fin de parcours, ils n'ont pas souvent accroché la Champions League, mais ils faisaient des parcours chaque fois dans les 5-6 premiers, en étant parfois même dans les 3-4 premiers tout au long de la saison. Alors, il y a eu un petit souci d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que je suis retourné plusieurs fois à Leicester depuis. Ils ont fait un camp d'entraînement, j'allais dire presque démesuré, d'une beauté, d'un luxe pratiquement incroyable qui leur a coûté beaucoup, beaucoup d'argent par rapport au budget prévu. Et à partir de là, ça a généré un budget inférieur pour l'achat des joueurs. Et cette saison, pour les suivre, ils ont une équipe faible. J'ai trouvé qu'ils avaient une équipe même très faible. Alors, ils ont eu beau changer. Moi, quand je suis allé les voir, ils étaient avec Cooper, l'entraîneur qui a été remercié. L'arrivée de Van Nistelrooy a presque encore été pire. Et il y avait vraiment une qualité de jeu qui n'était pas à l'image de ce qu'on a pu connaître pendant de nombreuses années. Voilà.
Alors voilà pour Leicester, un autre champion d'Angleterre va lui retrouver la Première Ligue, l'ascenseur inverse la saison prochaine. Il s'agit de Leeds United.
Cantona, Rob John Scales.
To tee up Cantona's second with a quarter of an hour to go.
Cantona's in there, and it's a hat-trick for the Frenchman.
Still Cantona, that's a great goal by the Frenchman.
Leeds United, on a entendu l'époque glorieuse, 1992, Salim, bon, vous étiez tout petit, je ne sais pas si vous suivez déjà.
Oui, avec Eric Cantona, évidemment.
La première ligue, petit, donc mais déjà grand le par titre de champion d'Angleterre, le troisième et dernier de l'histoire de Leeds. Puis pareil, c'est une équipe qui a du mal à retrouver son glorieux passé.
Ah oui, parce que vous avez eu même un pic, si vous souvenez, avec des demi-finales de Ligue des Champions à la fin des années 90, début des années 2000, où vous avez notamment été éliminé à l'époque par Valence. Donc c'était le plus haut avec Marc Viduka, notamment, qui était à l'attaque de cette équipe de Leeds, puis petit à petit la chute. On a eu une renaissance il y a quelques saisons avec ce Leeds joueur, notamment coaché par Marcelo Bielsa, qui avait entraîné vraiment une vague de sympathie même.
L'effet glaciaire.
Exactement, mais c'était la fameuse période Covid, hein, vous vous souvenez, avec les stades vides évidemment, mais par la suite beaucoup plus compliqué. Marcelo Bielsa remercié, le club qui est relégué, on se dit est-ce qu'ils vont réussir à remonter. Daniel Farke qui a fait un boulot formidable sur le banc. D'ailleurs, le club va remonter, sans doute sans Daniel Farke, qui devrait être remercié par ses dirigeants après cette montée officialisée, puisque Leeds veut rebooster et se redonner un nouvel élan en changeant de coach. C'est un concept très intéressant, je vous l'accorde.
Il faut voir qui le remplace.
Très surprenant quand même. Hein.
Oui, absolument.
Il faut voir qui le remplace. Quoi. Moi, Leeds, honnêtement, cette saison, j'ai moyennement suivi. S'ils ont... mis à part un ou deux joueurs, mais moi Leeds pour moi en fait c'est un joueur. Alors vous allez tous me dire Cantona, mais non, pour moi c'est pas Cantona, c'est un international ghanéien, c'était Yeboah.
Oui, Anthony Yeboah, bien
quelle
sûr.
Quelle époque, quelle date, ça je me souviens plus exactement.
Pareil dans les années 90 aussi.
Je me souviens d'un de ses buts qui avait été élu parmi les 10 plus beaux buts de l'histoire de la Première Ligue. Une cacahuète pied gauche absolument monumentale.
Et juste Leeds qui effectivement remonte, on le rappelle, Leeds qui est premier de ce championnat, Burnley qui est deuxième. Leeds qui allait mal ces dernières semaines, très bizarrement. Alors, ça ne perdait pas, mais ça ne gagnait pas beaucoup de matchs nuls, avec notamment le fameux gardien Ilan Meslier, gardien français, qui est très coté, mais beaucoup moins cette saison. Il est l'auteur d'une douzaine de bourdes cette saison, qui ont entraîné des buts directs, hein, j'insiste. Donc, ces dernières semaines, le coach a dit « Hep, on va changer ». Et avec le changement de gardien, Leeds n'a plus perdu et même a recommencé à gagner, ce qui fait qu'il a perdu sa place et a priori ne devrait pas la retrouver de suite.
Alors Leeds va remonter, encore faut-il maintenant se maintenir. Est-ce que Leeds sera capable, selon vous, Jackie, de rester en Première Ligue ?
Et Salim l'a dit, la grosse difficulté des équipes de Championship quand ils arrivent en Première Ligue, c'est une souffrance, parce que là, si on regarde bien Leicester et Southampton qui descendent, ils ont été décrochés depuis très longtemps.
Totalement.
Et on s'est rendu compte, pour avoir vu la plupart de leurs matchs, notamment Leicester, pas toujours Leeds, mais Southampton, ils ont vraiment beaucoup souffert. En deux mots, ils n'étaient pas au niveau.
Et c'est pour ça, Leeds, ça va être intéressant, le mercato estival, comment on va recruter. D'ailleurs, l'autre club qui monte aussi, je rappelle, c'est Burnley, qui monte aussi en étant deuxième. Alors Burnley, il y a des garanties, enfin garanties, c'est un grand mot, mais Burnley, c'est de loin la meilleure défense de tous les grands championnats européens, première et deuxième division. Ils ont encaissé, si ma mémoire est bonne, en 44 matchs, ils ont encaissé 15 buts. Ce qui est invraisemblable comme nombre.
Ah oui, c'est
mais bon, vous êtes en championship avec notamment Hannibal Mejbri, le Tunisien, qui est remarquable au milieu de terrain.
Il est de nouveau conquérant, Hannibal, sur...
mais mal, absolument, et il est précieux. Mais ça va faire partie. Il y a des attentes, il y a eu des choses très intéressantes. Mais de passer le cut et réussir à finir donc 17e, puisque c'est ça l'objectif au final, finir 17e, et donc ne pas être relégué, c'est un gap colossal.
À suivre donc Leeds la saison prochaine en Première Ligue. Allez, maintenant on prend l'accent espagnol.
J'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros. J'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme. J'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah, mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah, mon Dieu, que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Ouais.
Encore cassé, Eduardo Camavinga, victime hier d'une rupture du tendon de l'adducteur gauche lors du match du Real Madrid à Getafe. Match remporté 1-0 par le Real. Le milieu de terrain français est out pour plusieurs semaines. C'est sa quatrième blessure de la saison. Il a eu les ischio-jambiers, le genou. Il a été arrêté de nombreuses semaines. Comment expliquer une telle fragilité chez lui, Jackie, Nabil?
À la répétition des matchs, des matchs à haute intensité, des matchs à haute intensité émotionnelle, qui fait qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il y a un corps qui ne tient pas le coup. Voilà, c'est tout.
Et en complément aussi, je me permets, il y a quand même beaucoup de blessures au Real. Beaucoup de joueurs qui se blessent. Vous avez évoqué la liste de Camavinga, mais on pourrait en lister tellement des joueurs.
Rudiger, Militão, Carvajal, Courtois était blessé aussi.
On se dit à un moment donné, alors je ne le connais pas, le staff médical, la manière dont il travaille et tout, mais quand c'est des tibias péronés, c'est des accidents, voilà. Mais quand ce sont des blessures musculaires, là, à répétition comme ça, on se dit la gestion. Alors oui, vous avez des blessés, vous n'avez peut-être pas au final un effectif si pléthorique que ça, alors que vous êtes le Real. Mais à un moment donné, il y a un problème peut-être aussi dans la gestion des corps et de la manière de les soigner.
De toute façon, il ne fait que du bricolage cette saison.
C'est ça qui est phénoménal, c'est pour ça que ce que fait le Real est phénoménal.
Et donc, il est obligé de faire le mécano, il invente des postes à des joueurs, tout ça pour essayer d'avoir un équilibre qu'il n'a jamais, puisque de toute façon, c'est pipé depuis le début, avec des joueurs superstars devant et une équipe coupée en deux. Et après, ça dépend aussi des individus, de tout un chacun, des travails invisibles que nous, on ne peut pas mesurer ici d'où on est. Alors, je pense que c'est un professionnel à Camavinga.
À l'époque, je me rappelle quand Neymar était au PSG, vous disiez souvent il passe sa vie en boîte de nuit. Et que,
Neymar,
son hygiène de vie, que pour Eduardo Camavinga...
Non, je crois pas. Et puis surtout, au Real, vaut mieux pas, parce que ça te disqualifie très rapidement, parce qu'il y a quand même le point institutionnel du club qui est plus fort qu'au Paris Saint-Germain. Enfin, au Paris Saint-Germain de l'époque... de Neymar, où Neymar était au-dessus du club, disons-le clairement. Et puis Neymar, il s'en cachait pas, puisqu'il y avait une forme de transparence, de toute façon. Puis il était heureux comme ça. Vous savez, il y a des joueurs, je pense que Jackie, tu le sais mieux que moi, il y a des joueurs, soit c'est ça, soit la soupe à pépette, et c'est comme ça.
Je veux dire,
on est tous différents, mais Camavinga, s'il est pris par Didier Deschamps, par exemple, qui, à mon avis, se renseigne sur tout, si c'est un intermittent du spectacle en dehors de son boulot, à mon avis, il n'est pas en équipe de France.
Mais Jackie, enfin, on a affaire à un joueur jeune qui est quand même dans une institution, le Real Madrid. Je sais pas, il a peut-être une fragilité de base.
Mais il y a un capital santé au départ. Il y a des gens qui sont beaucoup plus, et on le voit. On appelle ça la fiabilité. On va peut-être en parler avec Jules Koundé, qui a enchaîné les matchs d'une manière assez incroyable. Alors, bien entendu qu'il y a le capital santé. Et puis après, il y a tout ce qui va avec, la gestion par l'entraîneur, et puis surtout ce qu'on appelle l'entraînement invisible. C'est quoi l'entraînement invisible? C'est de bien se reposer, c'est de bien manger, c'est d'être cohérent, peut-être travailler sur son corps avec des kinés, avec des ostéopathes, peut-être des étirements, tout un tas de choses qu'on ne voit pas, c'est pour ça qu'on l'appelle invisible, et c'est la fiabilité des joueurs.
Alors Jules Koundé, justement, vous en parliez, lui il est vraiment increvable, un homme bio-ionique, presque, si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez connu cette série L'Homme qui valait 3 milliards, il vient d'enchaîner Jules Koundé sans mettre générique derrière Si les plus anciens s'en souviennent.
Mais c'est Jules Koundé qui vaut 3 milliards, quasiment.
Je ne sais pas si il vaut 3 milliards, mais en tout cas, il vient d'enchaîner 104 matchs sous le maillot du Barça en tant que titulaire ou alors en sortant du banc. Une série entamée le 25 novembre 2023 qui s'est interrompue ce week-end seulement lors du match face à Majorque. Hansi Flick l'a laissé au repos, même si en fait, lui, il se disait bah, en fait, non, lui, il aime ça. Et puis, avec son physique, il est vraiment infatigable. Écoutez, Hansi Flick.
Le problème avec Jules, c'est que quand je lui dis je vais te remplacer, car je ne sais pas te faire jouer 30 minutes de moins, le lendemain, il va aller courir. Alors, peut-être que pour moi, tel que je le vois, il vaut mieux qu'il court sur le terrain et qu'il donne 100% pour l'équipe. Mais bon, il est dans une forme fantastique.
Alors, je sais pas, la comparaison, je sais pas si qu'est-ce qui différencie... Edouard dans Camavinga, je le connais de Camavinga. Quoi.
Non, mais là encore...
C'est comme, qu'est-ce qui me différencie de Salim? Et Salim, enfin, je veux dire, on est tous singuliers, uniques, et on a tous
notre capacité. Il y a parfois des saisons voilà, où on est peut-être plus fragile pour différentes raisons. On ne sait pas aussi ce qui se passe dans sa vie privée.
C'est le capital génétique. Tout un tas
de... Alors, Jules Koundé, apparemment, dit Flick, il est mordu de préparation.
C'est un phénomène, Jules Koundé. Et là où c'est encore plus étonnant... c'est qu'il est dans un poste où finalement il y a quand même de l'impact athlétique, physique, donc plus de chances de se blesser.
Dans un poste et dans un club, voilà. En plus.
Non, puis ce qui est extraordinaire avec ce joueur, parce que quand il a commencé au Girondins de Bordeaux, il est passé par Séville et maintenant le Barça, on ne peut pas dire non plus que c'était un phénomène. C'est-à-dire que lui, il s'est construit avec le temps, il s'est construit à travers les matchs, à travers son sérieux, c'est bien la preuve qu'on progresse aussi beaucoup dans les matchs. Et c'est le prototype même du joueur qui se gère. Moi, j'entends partout qu'il a un petit côté Ronaldo dans son entraînement invisible. C'est-à-dire qu'il fait attention à son poids, il fait attention à tout, et à partir de là, il est récompensé, et ça, c'est parfait pour... c'est le devoir d'exemplarité, et ça, c'est extraordinaire.
Et le mot progression que vous évoquez, alors progression en plus que l'on voit même, j'allais dire, dans la qualité de ses matchs, c'est vrai que parfois il était critiqué aussi pour ses sorties.
On savait pas, est-ce qu'il est défenseur central, est-ce qu'il est arrière droit, tout compte fait, il est pas si performant que ça.
Il est défenseur central, quoi.
C'est ça, donc voilà, maintenant il est vraiment performant et c'est pour un joueur quelqu'un de très fiable. Et le mot fiabilité pour un joueur, c'est une priorité.
C'est ça, là où parfois on émettait des doutes à son encontre, quand on le voit désormais en équipe de France, même sur le dernier Euro ou d'autres compétitions, on se dit, mais Jules Koundé, c'est quasiment le premier nom à mettre sur la feuille de match.
Ce qui n'était pas le cas au départ.
Exactement,
hein.
C'est là où on se dit, ben, la progression de Jules Koundé, elle est constante en équipe de France et donc à Barcelone. C'est qu'à Barcelone aujourd'hui, parmi les noms que vous mettez, vous savez, sur votre côté droit entre Koundé et Yamal, vous avez des garanties. Un Flick, là, il est tranquille sur ce côté-là, a priori.
Ça, vous parliez d'Hakimi, c'est un des meilleurs latéraux du monde. Koundé avec Hakimi.
Ouais, c'est un autre profil, il est plus défensif. Hakimi, je pense que c'est plus un contre-attaquant. Koundé, plus dans l'équilibre entre les deux, même si. Je suis d'accord avec Jackie, il est formé comme défenseur central, mais ça n'empêche pas de travailler sa qualité de frappe et de centre,
et de
quoi,
centre
tout ça notamment. Quoi. Et non, c'est un joueur, t'es tranquille, quoi. Tu le mets, c'est un peu comme à l'époque Willy Sagnol, Bakary Sagna, des joueurs comme ça, quoi. C'est-à-dire que t'es
on
tranquille.
On a un minimum
quoi.
Garanti
voilà,
à chaque match.
T'es tranquille.
Eh bien, Jules Koundé, on le retrouvera samedi lors de la finale de la Coupe du Roi pour un choc très attendu face au Real Madrid. Un classico que l'on évoquera évidemment en long, en large et en travers demain dans le Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Jackie.
Merci, Eric. Merci, Eric.
Nabil Djellit, Salim Bongali.
Merci. Au plaisir.
Au plaisir de vous retrouver. Eh bien, amis auditeurs, on se retrouve demain donc, pour ce Café des Sports. Un grand merci à Maestro Salerno, David Finzel. Et puis, on n'oublie pas Saloum, notre fidèle auditeur du quartier Niar Italie de Dakar. Nagadef, à très bientôt. Au revoir.